Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.
Chers amis, on se retrouve pour la suite du débrief de Radio VFM et Foot Normand. C'est le 17e épisode aujourd'hui et dans cette troisième partie, on continue à parler du foot féminin. Vous le savez, c'est le cachet qu'on a souhaité donner à ce 17e épisode consacré exclusivement au foot féminin. Toujours à mes côtés, Mathieu Billot de Foot Normand. Re-salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
On va parler dans cette partie de foot féminin dans la région avec la Ligue de football de Normandie. Troisième partie, donc on le disait, foot féminin à l'honneur dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand aujourd'hui, après avoir parlé du foot féminin au Havre, du foot féminin au Stade Malherbe de Caen avec Anaïs Bounawar dans la deuxième partie. Maintenant, on va s'intéresser au foot féminin avec la Ligue de football de Normandie, l'institution qui travaille évidemment à la promotion du foot féminin. On le mesure en ce moment avec par exemple la présence de l'équipe de France qui s'est produite à Dornano au Stade Océane du Havre dans le cadre du tournoi de France. Et de tout cela, on va en parler avec celle qui est conseillère technique régionale en charge du développement et de l'animation des pratiques. Il y a notamment dans tout ça le foot féminin, évidemment, c'est Mylène Panier que l'on accueille. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Merci d'être l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Le foot féminin à l'honneur particulièrement cette semaine, évidemment, j'y faisais référence, avec le tournoi de France, comme on l'a fait avec Laure Lepailleur, comme on l'a fait avec Anaïs Bounoir. Mylène Panier, on va peut-être faire un état des lieux tout d'abord de ce qui est devenu aujourd'hui le foot normand, le foot féminin, en Normandie. On le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en plein essor, en plein développement depuis déjà plusieurs années.
Oui, effectivement, les chiffres en termes de nombre de licenciés sont en constante augmentation, ainsi que le nombre d'équipes spécifiques qui existent. Il y a une réelle politique, de développement impulsé par toute l'équipe de Pierre Loresteux et l'ensemble de l'équipe technique sur la pratique féminine, qui montre effectivement ses fruits. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 9500 licenciés, ce qui représente 557 équipes exactement, des tout petites jusqu'aux seniors. Et on a 37% des clubs normands qui ont au moins une équipe féminine au sein de leur structure.
Donc avec ce chiffre notamment de un peu plus de 9500 joueuses, parce que c'est bien ça dont on parle, je crois que ça comprend pas les dirigeantes, les licences dirigeantes, ce chiffre-là, on parle bien
oui,
des joueuses, c'est bien ça,
oui.
Donc il y a aussi des dirigeantes à côté. On n'est pas loin du cap qui était un objectif, je crois, fixé par la Ligue, de ce fameux cap des 10 000 licenciés. On peut imaginer que, alors je sais pas si d'ici la fin de la saison, mais au moins la saison prochaine, légitimement, il pourra être atteint.
Oui, je pense que clairement la dynamique est bonne et on s'aperçoit aussi que malgré la pandémie qu'on a vécue depuis deux saisons, les chiffres sont vraiment encourageants. Donc aucune inquiétude et effectivement si on comptabilise les éducatrices et les dirigeantes ainsi que les arbitres, on est bien au-delà des 12 000 licenciés. Donc c'est plutôt encourageant et donc cet objectif qu'avait effectivement placé avant la Coupe du Monde, le comité directeur a été largement atteint et là maintenant on est en passe d'atteindre les 10 000 pratiquants.
Oui, donc c'est vraiment un bel objectif, un beau chiffre qui serait pour le football féminin normand, forcément. Alors, c'est une belle réussite, mais il ne faut pas s'en contenter. Vous disiez qu'il y avait 37% des clubs normands qui avaient au moins une équipe féminine au sein de leur structure. Bon, on imagine qu'il faut continuer à faire des actions pour encore mailler de plus en plus le territoire. C'est quoi un petit peu les leviers sur lesquels on peut agir justement pour encore développer cette pratique?
Ouais, c'est effectivement une nécessité. Bah, disons que le fait d'avoir, obligé les clubs régionaux qui évoluent en R1, R2, R3, garçons, à avoir une équipe féminine a été un réel succès dans la mesure où effectivement les clubs ont joué le jeu globalement et surtout ont été accompagnés au-delà de cette obligation qui peut être vécue comme une contrainte. Il y a eu un vrai accompagnement de fait dans les territoires pour aider les clubs à se structurer au niveau des féminines. Et à ce jour, très peu de clubs évoluant à ce niveau sont en infraction. Il en reste encore quelques-uns, mais très peu. Donc on va dire que ça, c'était déjà une première étape pour avoir un maillage du territoire globalement cohérent. Maintenant, effectivement, on peut toujours mieux faire et que ce soit dans un milieu urbain ou rural, à partir du moment où un club a une école de foot, garçon, ça veut dire qu'il est en capacité d'accueillir au moins une équipe de jeunes filles sans aucune difficulté. On va dire que la clé, c'est effectivement d'avoir un ou une référente qui puisse s'occuper de cette équipe. et puis après d'initier des actions promotionnelles. Hein, donc on va dire qu'il y en a, il y a trois sortes d'actions. Il y a les journées découvertes traditionnelles que tous les clubs organisent à un moment donné dans la saison, qui peut se faire sur différents temps. Mais aussi, et ça souvent les clubs n'ont pas forcément conscience, c'est toutes les actions de parrainage. Alors souvent ce sont les filles qui parrainent les filles. Et j'ai envie de dire aux clubs que c'est plutôt, à partir du moment où ils ont une école de foot de garçons, les garçons sont forcément scolarisés dans des classes mixtes. Et à partir de là, s'il y a un parrainage avec, par exemple, l'équipe U9 garçons qui parrainent des filles de leur classe, bah, peut-être que ça peut aussi faciliter la création d'équipes. Et puis le dernier levier qui nécessite d'avoir par contre un agrément et donc d'avoir un certain niveau de diplôme à partir du CPS1 jusqu'au BEF, c'est de pouvoir intervenir dans le temps scolaire en mettant en place des cycles à l'école où là on voit clairement que les clubs qui misent sur cette action ont une vraie efficacité et un vrai apport l'année d'après en termes de nombre de licenciés garçons mais surtout féminins.
Oui, donc ça fait quand même pas mal d'actions qui sont à disposition, on va dire, des clubs pour essayer de développer cette pratique féminine. On reprécise juste quelque chose. Hein. Effectivement, aujourd'hui, pour évoluer au niveau régional, que ce soit en R1, en R2 et en R3, comme vous l'avez dit, Mylène, les clubs ont l'obligation de présenter au moins une équipe féminine. Voilà, donc on va qualifier ça de mesure incitative. Voilà, certains clubs en fait attendaient un petit peu ça, ce petit coup derrière pour passer le cap quoi.
Disons que c'était à double tranchant. C'est vrai que le fait d'obliger quelque chose peut être vécu, surtout dans les temps qui courent, par une contrainte supplémentaire pour les clubs, et d'ailleurs certains, j'en suis encore sûr, le vivent comme ça. Pour autant, dès que cette mesure a été adoptée, la politique, elle était claire, c'était on ne laisse pas les clubs se débrouiller par eux-mêmes. Ceux qui sont en réelle difficulté, ceux qui ont l'envie, ils vont se débrouiller, mais ceux qui sont en réelle difficulté, ils peuvent vraiment faire appel à toutes les instances départementales ou régionales. Et moi, je ne connais pas de club qui a... à partir du moment où ils ont commencé à faire la démarche, n'a pas réussi à avoir une équipe féminine, en sachant qu'en plus on est sur des offres de pratique, surtout les départements normands qui sont sur des effectifs réduits. Hein. En U9, elles jouent en foot à 4, en U11, elles jouent en foot à 5, en U13 aussi, elles peuvent jouer à 5 ou à 8 suivant les départements, mais là aussi il y a des axes d'amélioration pour vraiment tenter de faire cette offre de pratique à effectifs réduits pour faciliter la création d'équipes et donc développer la masse. Mais en tout cas... tout est fait pour faciliter la mise en place de ces équipes.
Oui, Mylène, on a le sentiment qu'effectivement, il y avait encore quelques temps, quelques clubs qui essayaient de développer la pratique féminine, peut-être plus par obligation, mais qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, en tout cas, des clubs qui croient vraiment au développement de la pratique féminine, qui ont aussi compris que plutôt que de laisser 2-3 jeunes filles comme ça éparpillées dans des équipes de garçons, les clubs ont tout intérêt à offrir des conditions d'accueil dignes de ce nom féminine, et que donc c'est aussi l'intérêt du club que de promouvoir le foot féminin, que de créer des équipes 100% féminines. On a vraiment le sentiment que les consciences ont quand même évolué et qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs y croient, mais vraiment.
Oui, c'est vrai. Il y a des degrés, des nuances, on va dire, sur la région, je pense, sur ce que tu dis, Christophe, parce que les clubs qui ont démarré leur développement il y a quelques temps déjà, ils sont dans cette optique-là de voir l'intérêt qu'apportent les filles avec une vraie dynamique, avec des bénévoles potentiellement supplémentaires, avec du coup aussi un autre football, hein, du coup, d'autres manières d'appréhender les choses et qui amènent souvent un vent de fraîcheur dans les clubs. Et donc il y a une réelle plus-value aussi avec des partenaires qui peuvent s'intéresser sur la pratique féminine, clairement. Donc les clubs qui ont commencé déjà depuis quelques temps, ils sont dans une vraie dynamique de développement et de structuration. Où là, ils essaient de démarrer dès toutes petites et d'arriver jusqu'aux plus grandes. Donc là, on va dire que ça concerne des clubs quand même assez structurés. Et puis, à côté de ça, on a ceux qui commencent tout juste et qui, du coup, se retrouvent à avoir des effectifs avec des fois des écarts de niveau importants, des années d'âge, un écart d'âge aussi assez conséquent. Donc c'est pas forcément simple pour eux quand on démarre. Mais en tout cas, tout est fait, encore une fois, pour être suffisamment souple dans les offres de pratique pour permettre à tout le monde de jouer.
Et à ce titre, Mylène, comme pour les garçons, les instances ont mis en place des labels qui permettent de récompenser, de valoriser en fait le travail fourni par les clubs. Alors, il y a le bronze, l'échelon argent, puis l'or. La volonté, c'est vraiment d'encourager les clubs justement à poursuivre leur structuration, à aller encore au-delà demain.
Ouais, clairement. C'est vrai que Ce label fédéral écoféministe au foot est vraiment une très bonne initiative parce que on se rend compte que c'est une porte d'entrée souvent pour les clubs parce que le premier niveau, sur le niveau bronze, il est très accessible. Hein, il faut une équipe, avoir quelqu'un qui a passé un module de formation, faire une petite animation autour du programme éducatif fédéral et à partir de là, on rentre quasiment dans tous les critères. Et donc, c'est une valorisation qui est hyper importante et accessible à n'importe quelle petite structure. Et bien souvent, les clubs, ils sont hyper contents d'avoir cette reconnaissance qui est assez accessible pour eux et qui les motive à poursuivre. Et puis, bah, après, pour ceux qui ont démarré dans cette démarche-là et qui ont aussi les possibilités d'aller plus loin, bah, c'est aussi un moyen, effectivement, de se structurer davantage, d'accueillir de plus en plus de jeunes filles. C'est pas la vocation de tous les clubs. Encore une fois, en fonction de la taille des clubs, une petite structure, si elle a une équipe féminine, c'est très bien. On va dire qu'à l'école de foot, comme je le disais, jusqu'en U11, c'est très bien. À partir de la pratique à 8, ça peut déjà être un peu plus compliqué. Mais comme c'est le cas aussi sur le passage en foot à 8 ou foot à 11 chez les garçons, par exemple, donc c'est la même problématique. Il ne faut pas chercher à aller au-delà de ce qu'on peut faire. Mais après, si on peut construire des partenariats pour que du coup, il y ait une continuité avec des petits clubs qui peuvent alimenter après des clubs un peu plus importants dans leur secteur, ben, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde.
Ah, il y a ce volet-là. Il y en a eu un autre qui est mis en place cette saison, qui concerne les championnats, notamment les championnats seniors. Il y a eu une refonte, on va dire, un petit peu des championnats, notamment concernant le championnat de R1, où il y avait plusieurs poules précédemment. Et désormais, cette saison, il n'y en a plus qu'une seule, qui comporte aujourd'hui 14 équipes. Mais ça, c'est plus... Il y a un nombre assez important d'équipes, compte tenu du fait que les championnats n'ont pas pu aller à leur terme les saisons d'avant à cause de la crise sanitaire. À terme, ce championnat-là comportera 12 équipes. C'est ça, Mylène, un petit peu l'organisation du haut niveau du football féminin en Normandie ?
Oui, c'est ça. On va dire que là, il y avait deux tendances qui se dégageaient sur les seniors au niveau régional. Il y avait une volonté de la Ligue de vraiment commencer à resserrer l'élite parce qu'on commençait à avoir un peu plus de masse. Et dans le même temps, une volonté des districts d'ouvrir une pratique en foot à 11 dans leur structure. Donc du coup, c'était ce double enjeu qui était recherché. Donc ça aboutit sur cette réforme qui a été votée effectivement la saison dernière avec une pyramide un peu plus cohérente avec un groupe de R1 à 12. Et puis une R2 avec deux groupes de 10 géographiques. Et je pense que ça satisfait les clubs qui ont une meilleure visibilité. Et puis après, au niveau des districts, là, il y a deux poules qui ont été créées cette année, avec du coup un système d'accession descente qui donne un enjeu et un intérêt pour tous les niveaux de compétition.
Du coup, au niveau district, il y a un championnat en Seine-Maritime, si je ne me trompe pas, un championnat district en Seine-Maritime, et un autre réparti entre le Calvados et la Manche, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà.
Et oui, c'est ça.
Voilà. Et donc du coup, c'est plus lisible pour les clubs, mais j'ai envie de dire c'est plus lisible aussi pour le grand public qui s'intéresse à ces championnats, peut-être notamment le R1. Là, c'est assez clair. Voilà, cette saison, hein, les deux premiers ont le droit de disputer les barrages d'accession en deuxième division. Voilà, il y aura quatre relégations, si je ne me trompe pas, Mylène, cette année, compte tenu de la poule à 14.
Quatre. Oui, quatre relégations, hormis si on a la chance d'avoir un club normand qui accède en D2.
Et voilà, et on le souhaite très très fort. Donc voilà, donc c'est quand même beaucoup plus lisible que ces championnats à plusieurs phases où on ne sait jamais trop qui doit monter, qui doit rester. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc ça aussi, ça contribue un peu au développement du football féminin.
Oui, clairement. Et je pense qu'il était temps. C'était le bon moment. Une synergie qui arrivait à point nommé. Et donc, c'est un cap important qui a été franchi, oui.
Mylène, évidemment, ce qui a mis aussi en lumière le foot féminin ces jours derniers, c'est le tournoi de France qu'accueille la Normandie. C'est une épreuve organisée par la Fédération française avec l'appui évidemment de la Ligue de football de Normandie. Il y a eu une super soirée pour l'équipe de France féminine. C'était samedi soir à Dornano avec cette victoire 2-1 devant un peu plus de 12 000 personnes face au Brésil. Ça, c'est une opération rêvée vraiment dans notre région pour promouvoir le foot féminin.
Ouais, c'était vraiment un beau moment qui tombe aussi à point nommé parce que ça a permis de... presque depuis 2 ans, les clubs n'ont pas pu vraiment faire d'animation avec cette crise sanitaire. Hein, donc ça a vraiment donné, je pense, une bouffée d'oxygène et ça a permis aussi aux clubs et à leur section de pouvoir vivre un moment de convivialité et d'assister à un bon match. Donc c'était vraiment rafraîchissant par rapport à ça. Et puis, c'est aussi quelque part... l'occasion pour le grand public de découvrir ou de redécouvrir la pratique de haut niveau. Donc ça, c'est toujours des points de gagner, c'est une certitude. Et puis, je pense aussi que, j'espère en tout cas, que les jeunes joueuses, ou les moins jeunes, ont un peu réussi à identifier les joueuses qui évoluent à leur poste et qu'elles vont un petit peu regarder comment elles jouaient, avec ballon, sans ballon, pour qu'aussi elles prennent des repères et qu'elles puissent, à leur niveau, améliorer les points sur lesquels elles peuvent encore avoir des axes de progression importants, notamment si c'est des jeunes joueuses. Donc ça, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard en tant que joueuse, voilà, de m'identifier si je joue défenseur central, qu'est-ce qu'a fait Wendy Renard sur ce match, et de pouvoir essayer de la copier. Donc c'est important pour moi qu'elles aient aussi des références filles, parce que c'est quand même pas la même chose, le haut niveau féminin et le haut niveau garçon, il y a des nuances, et c'est important que les jeunes filles puissent s'identifier aussi à des modèles féminins.
Ouais, c'est important pour le développement du foot féminin, pour la progression des effectifs. On sait que ça se vérifie chez les garçons. Une équipe de France qui brille, qui gagne une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, ça a un effet immédiat sur la progression des effectifs. C'est devenu le cas aussi de l'équipe de France féminine, qui, on le sait, a été parfois controversée, mais aujourd'hui, elle est vraiment représentative. Elle joue son rôle de moteur, en fait, sur la base, sur le foot féminin dans les clubs, avec cette médiatisation qui est née autour de cette équipe, avec des échéances également là qui vont arriver, avec la Coupe du Monde qu'on a accueillie ici en Normandie.
Oui, clairement, c'est vrai que l'équipe de France est dans une phase un peu de transition, une préparation des futures échéances, avec quand même un groupe qui a été largement rajeuni, aussi avec des jeunes joueuses qui ont gagné des titres en jeunes, et ça me semble important. Je trouve que Corinne Diacre est sensible à ça, à avoir cette culture de la gagne, et certainement un atout, alors même si forcément il y a un écart entre les sélections jeunes et l'équipe de France A, mais en tout cas, on sent clairement cette volonté de rajeunir le groupe et de miser quelque part sur des joueuses qui ont déjà gagné des titres, et ça semble important, effectivement.
Un tout petit mot aussi, Mylène Panier, sur un autre événement qui a eu lieu là ces jours derniers en Normandie. On n'a jamais parlé autant du foot féminin avec la Ligue de football de Normandie, puisqu'il y a aussi eu un match U23 France-Angleterre là, qui a eu lieu à Lisieux, avec notamment dans les rangs des Bleuettes, et Elia Palis, qui est une jeune fille de la région.
Oui, jeune fille de la région, ex-capitaine de l'ex-région Basse-Normandie, Ligue de Normandie. Donc, et là, c'est effectivement un beau message, c'est une belle personne, une joueuse qui, du coup, a fait ses classes aussi à Guingamp avant de basculer sur les Girondins de Bordeaux, où là, le temps de jeu est un peu plus restreint, je crois, en ce moment, mais en tout cas, elle a eu aussi la chance d'être sélectionnée à quelques reprises en équipe de France A, donc c'est un vrai modèle et vraiment quelqu'un de bien, qui représente bien la région Normandie, clairement.
Une équipe de France U23 qui était hébergée au centre sportif de Normandie. Voilà, dans les installations, on en profite pour leur passer un petit coucou, parce qu'on sait qu'ils nous écoutent et ils nous suivent assez régulièrement. Dans tout ce cheminement de développement de la pratique féminine, donc il y a la base, il y a aussi le haut niveau, et dans les cartons, à moyen terme, il y a aussi la possible création d'une section sportive performance pour des jeunes filles, pour des jeunes collégiennes. Mylène, alors c'est pas exactement l'équivalent d'un pôle espoir, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche.
Oui, effectivement, disons que là, il y a une vraie réflexion qui est menée avec du coup les structures professionnelles qui s'organisent de mieux en mieux au niveau de la formation, même si à ce jour, il n'y a que deux clubs pro en France qui ont l'équivalent du cahier des charges d'un pôle espoir qui est actuellement pour les filles sur les années lycées. Donc ça s'améliore, et je crois qu'il y a une réelle volonté de la fédération d'offrir un cahier des charges pour habiliter les centres de formation à moyen terme pour les clubs de D1, voire de D2. Donc du coup, je pense que la priorité, c'est effectivement de s'axer sur la préformation, où à ce jour, c'est quand même assez compliqué d'avoir des structures adaptées, mis à part des sections sportives locales ou départementales qui existent dans la région, avec le collège de Bressé notamment, et le collège Le Chanteur, et puis Autrey du Clerc. Mais pour autant, voilà, c'est pas suffisant, et ça permet pas de couvrir l'ensemble des besoins, et surtout d'avoir une préformation de qualité avec les meilleures joueuses qui sont regroupées dans une seule entité. Donc c'est cette ambition, effectivement, de cette section sportive performante, c'est de réunir les meilleures joueuses en 4e, 3e de Normandie pour leur offrir une préformation de qualité. Et donc c'est un projet, effectivement, que la Ligue de Normandie pour très prochainement.
Et ce qui serait encore une étape supplémentaire, du coup, dans le développement de cette pratique féminine. On rappelle que pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a encore une occasion de voir l'équipe de France en Normandie, puisqu'elle conclura le tournoi de France mardi contre les Pays-Bas, dans une sorte de finale du groupe. Ça donnera l'occasion de voir une dernière fois les filles et les joueuses de Corinne Diacre à l'œuvre. Et Christophe, on va aussi, c'est pas du football féminin, mais dire un petit mot, parce que le week-end était aussi chargé en actualité, un petit mot de Gambardella avec l'US Avranches. On a accueilli le coach Jean-Noël Le Buzelier la semaine dernière.
Évidemment, parce que c'est vrai qu'on a parlé dans la première partie de la fin de l'aventure pour les jeunes Havrais, de la poursuite de l'aventure pour les jeunes du Stade Malherbe qui se sont qualifiés hier pour les quarts de finale de cette Gambardella. Ça s'est moins bien passé aussi pour les jeunes de l'US Avranches, mais qui quittent l'épreuve la tête haute, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Mathieu.
Oui, voilà, alors c'était plus un petit poussé à ce stade de l'épreuve en huitième de finale. C'était une première pour le club de l'US Avranches et qui s'est incliné vraiment avec les honneurs parce qu'ils ont perdu 2-1. Ils étaient revenus au score juste avant la pause. Mon Strasbourg a été réduit à 10, mais voilà, mon Strasbourg c'est vraiment aussi un gros centre en France. Donc voilà, donc je pense qu'ils peuvent être fiers de leur parcours et donc ça valorise aussi la formation masculine là dans ce cas-là qui est entrepris du côté d'Avranches. C'est plutôt très très bien.
Effectivement, eh bien, merci beaucoup Mylène Panier, conseillère technique régionale en charge du développement et de l'animation des pratiques et notamment évidemment du foot féminin. Merci d'avoir été l'invité du débrief de Radio BFM et Foot Normand ce lundi. On est évidemment amené à reparler de foot féminin. On l'a bien compris, il va se passer plein de choses encore dans les semaines et les mois qui viennent autour de l'équipe de France féminine, mais pas que. Grand merci Mylène.
Merci à vous. Bonne journée.
Et à très bientôt pour parler de foot féminin. Voilà, c'était 3 épisodes du débrief qui ont sorti un petit peu de l'ordinaire, Mathieu, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre du tournoi de France qu'a accueilli donc la Ligue de football de Normandie sur les stades Océane et d'Ornano, c'est important de mettre à l'honneur ce foot féminin qui se développe partout. Et on le disait avec Mylène Panier également, dans les clubs les plus modestes, aujourd'hui en milieu rural.
Oui, non, mais voilà, c'est aussi l'opportunité, la vocation aussi, enfin même le but des médias, c'est de parler de toutes les pratiques. On parle régulièrement du très haut niveau, avec voilà, à travers le Stade Malherbe, à travers le HAC, à travers QRM, à travers Avranches. Mais voilà, il faut parler de tous les footballs, le football féminin qui en est, je pense, à ses débuts. Et je pense que dans quelques années, il prendra une dimension encore bien plus supérieure. Tant en termes de qualité qu'en termes de quantité. Je pense que dans quelques années, quand vous irez voir les écoles de foot de Vire, de Bayeux, de Rouen, de Dieppe, vous aurez encore de plus en plus de petites filles qui s'identifient certainement au Wendy Renard, au Marie-Antoinette Katoto, mais je pense qu'ils s'identifient aussi à Kylian Mbappé, à Antoine Griezmann, hein, comme leurs homologues garçons. Donc voilà, donc c'est très très bien. Voilà, plus il y a de personnes qui pratiquent le football, mieux c'est pour tout le monde. Et donc c'est parfait à ce niveau-là.
Eh bien, c'était le débrief spécial foot féminin donc avec Radio BFM et Foot Normand. On rappelle que ce lundi soir, en match décalé de la 25e journée de Ligue 2, Le Havre est à Toulouse, 26e journée du championnat de France de Ligue 2, samedi 26 février. QRM sera en déplacement à l'Asie Auxerre. Le Stade Malherbe de Caen recevra le Sporting Club de Bastia. Ce sera donc bien samedi soir à 19h à Dornano. Et puis, Le Havre accueillera dans le même temps l'AS Nancy-Lorraine. Merci infiniment, Mathieu.
Merci, Christophe.
On vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Merci à Nathalie Brière qui a assuré la réalisation technique de ce débrief. On se donne rendez-vous lundi prochain. Il se passera encore plein de choses. On l'a dit, il y aura de la Ligue 2. Il y aura aussi du foot dans tous les championnats nationaux et régionaux. Très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour parler football.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.